Alors, on y va avec maintenant notre chroniqueuse Anne-Marie Aubin. Elle était en studio avec nous la semaine dernière, mais là, elle est retournée dans son patelin à Maria. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Alors Anne-Marie, oui, vous avez fait des vérifications. On avait induit sans le vouloir nos auditeurs en disant que vous étiez chroniqueuse en ondes chez nous depuis 7 ans, mais c'est 6 ans pour être plus précis.
Tout à fait, c'est ça. Bon. J'ai confondu 2 années.
Oui, mais ça nous arrive tous d'être confondus ou confondus du. Bon, alors Anne-Marie, aujourd'hui, vous allez nous parler de 2 livres. Je crois que vous les avez appréciés tous les deux pour différentes raisons. On commence avec Migration aux éditions La Pastèque.
Oui, c'est un livre qui est paru en 2025, mais qui est revenu dans le décor parce qu'il s'est mérité le prix des libraires 2026 dans la catégorie BT. C'est un gros album là, de 156 pages, couverture carton, cousu, illustré tout en couleur, mais ça mérite vraiment le prix. Je comprends pourquoi les libraires ont été bouleversés devant ce texte-là de Jimmy Suzanne, que je connaissais pas, c'est sa première publication. Mais c'est quelqu'un qui est un directeur artistique en publicité, donc qui a gagné beaucoup de prix en design et en illustration dans le mode de la pub. Donc, il a une grande expérience et beaucoup de métiers. Et depuis longtemps, semble-t-il, il pensait à écrire cette histoire sur les origines de ses parents, tout ça. Puis c'est la pandémie qui lui a permis de trouver le temps pour s'y pencher. Et puis La Pastèque a publié ça de merveilleuse façon, comme les publications générales à La Pastèque. Alors, il est question d'immigration, parce que lui, il est haïtien, sa famille est venue suite au régime Duvalier, puis toute la violence qu'il y avait là. Puis il raconte le déracinement, l'exil de ces gens-là, la pauvreté qu'ils vont vivre, le racisme qu'ils vont vivre ici. Et c'est pas sans nous rappeler, par exemple, Caroline Dawson, qui ses parents sont partis rapidement comme ça, puis ont vécu très difficilement pour arriver à faire vivre leur famille ici. Alors, tout ça est très semblable.
Et elle partait du Chili.
Oui. Et puis, justement, il y avait un régime politique qui était, je dirais, triste pour tous les Chiliens, puis plusieurs sont venus vivre ici, puis les Haïtiens de la même façon. Et toute l'histoire commence alors que là, Jimmy est un adulte, il est au salon mortuaire, puis quelqu'un le rencontre, dit « Ah, Jimmy, tes parents, mon Dieu, ont été extraordinaires pour moi », puis tout ça, puis lui, il a un souvenir de ses parents très banal. Alors, il se demande qu'est-ce que c'est que cette femme-là sait que lui ne sait pas. Puis il se dit, ben, coudonc, c'est vrai, je ne sais rien des origines de mes parents. Alors, il prend le téléphone, il appelle sa mère, puis il a plein de questions, puis elle lui ferme la ligne au nez. Alors, il explique que finalement, pour ces gens-là, c'est un tabou de parler de ça. Alors, il l'invite dans un café, puis il va lui servir un alcool qui s'appelle le Kahlua, quelque chose comme ça. Mm-hmm. C'est pour la rendre finalement vulnérable.
Un peu plus détendue.
Alors, c'est ce qu'elle fait. Puis elle commence à lui dire que son père, ben, c'était quelqu'un de doux, de gentil. Puis lui, c'est pas du tout ça qu'il a comme idée de son père, mais il l'a connu après qu'il a immigré ici puis qu'il a vécu toutes sortes de violences. Et toute cette histoire-là permet au personnage adulte de mieux comprendre pourquoi il a eu une enfance si difficile dans la violence, la pauvreté. Et finalement, comment aujourd'hui il va revivre les mêmes choses. Ça, c'est triste. Parce qu'on se dit, bon, les parents sont arrivés en 1970 à Montréal, vont subir du racisme, de la discrimination raciale. Puis, on se dit, ça a été difficile pour eux. Mais là, lui, qui aujourd'hui vit en 2023-24 dans l'histoire, vit la même chose. Il y a un voisin qui fait beaucoup de bruit, puis qui le traite de tous les noms, puis il va faire une plainte au service de police qui dit qu'il n'y a pas de loi qui fait qu'on pourrait arrêter cette personne-là. Vous pouvez enregistrer, monter un dossier, mais finalement, il n'y a rien à faire. Autrement dit, il faut vivre avec. Et quand on est noir, c'est peut-être pire que quand on a la peau blanche. Enfin, c'est ce qu'il raconte un peu là-dedans, puis on se rend compte qu'on n'a pas trop évolué. Et ce qui est très beau, c'est toutes les influences graphiques de cet écrivain, auteur, dessinateur, tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a dévoré, et on sent dans le dessin qu'il y a des belles pages sur Montréal à l'époque de ses parents et aujourd'hui. Ça nous fait penser à Michel Rabagliati, qui peint des décors d'autrefois dans ses bandes dessinées et qui publie aussi à La Pastèque.
Oui, qui dessine à partir de photos souvent.
Oui, je pense que lui est allé faire des archives, je sais pas, des recherches. Puis là, ben, en tout cas, on reconnaît des lieux. Puis ce qu'il y a de commun avec aussi Caroline Dawson, c'est que cet enfant-là, comme il subit beaucoup de violences des voisins, du racisme et tout ça, souvent il va dire, bon, ben, je préfère passer la journée à regarder la télé à la maison. Et là, il y a les références comme Passepartout, Goldorak, Star Wars, puis au fil des ans, combien l'image est importante pour lui, ce qui nous fait comprendre effectivement qu'il va devenir un dessinateur. Dans le texte, c'est pas chronologique, il y a du passé, du présent dans la même page parfois. C'est magnifiquement illustré. Par exemple, on va voir le visage de son père, une moitié coupée dans le milieu du visage, une moitié en 1970, puis une moitié aujourd'hui, comment la personne a vieilli, puis comment lui, il est décrit à cette époque-là, puis comment lui, il le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anticipation qui nous dit, bon, ils peuvent pas savoir, mais ils vont devenir des amis inséparables, quelque chose comme ça. Des comparaisons dans le temps. Puis une chose qui m'a surprise, c'est qu'il n'y a pas de chapitre 10. Il y a des chapitres dans la suite. Puis là, on passe de 9 à 11. Peut-être que ça a un lien avec le vaudou. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé pourquoi c'est comme ça.
Ou une simple erreur.
Ça m'étonnerait que la pastèque sache pas qu'on...
Non, je sais bien, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Il y a quelque chose, mais je ne l'ai pas compris, là. C'est à suivre. Et les personnages sont vraiment beaux parce que c'est l'univers de Jimmy, puis c'est finalement des gens qu'il aime beaucoup. C'est, je dirais, une magnifique bande dessinée que j'ai lue deux fois et que je trouve superbe et que je recommande à tous, que vous soyez immigrant ou non, ça va vous permettre de comprendre les difficultés que cet homme-là a vécues, la violence qu'il a subie et combien c'est pas encore réglé dans notre cher pays.
Voilà. Prix mérité, hein, lauréat du prix des libraires 2026, catégorie BD, Migration, M-I-G-R-A-S-Y-O-N, par Jimmy Suzanne. Et sachez que Kitty Antoine, qui est animatrice ici à Canal M, l'a reçu, Jimmy Suzanne, dans le cadre de son émission Nouveau départ, et vous pouvez écouter, en tout cas, cette entrevue sur notre site Internet.
Excellent.
Autre livre qui pique ma curiosité, Valse anxieuse aux éditions XYZ de Anne-Marie.
Oui, ça c'est une beauté de 101 pages dans la collection Quai numéro 5. Catherine Gauthier, qui est originaire de la Montérégie, vit à Montréal. Elle est graphiste illustratrice et se passionne pour le dessin. Est-ce qu'on m'entend bien?
Non, là, on vous entend, mais on dirait que le son est devenu étouffé tout d'un coup.
Ça va mieux?
Oui, là ça va mieux.
Bon, alors, elle se passionne pour toujours pour le dessin, comme d'ailleurs Jimmy aussi. Là. C'est des gens qui étaient créateurs dès l'enfance. Et dans cette collection, elle a un roman graphique, je dirais, qui est à la fois autobiographique, comme une autofiction, mais à la fois un essai sur l'anxiété. Alors, elle raconte, bien sûr, que depuis toujours, elle a quelque chose qui la traque, qui est ce mal de vivre, qu'elle dessine, qu'elle illustre avec un loup pour montrer comment il l'habite. Elle dit que c'est comme un chien renifleur qui est toujours derrière elle. Et puis bon, ben elle raconte des anecdotes de sa vie, comment est-ce qu'elle vit avec ça, puis quelles sont les conséquences du trouble anxieux qu'elle vit. Elle dit parfois, il y a une petite voix, je cite, qui me murmure à l'oreille, c'est pas bon, c'est pas assez, plus vite. Alors là, elle dit qu'à ce moment-là, sa confiance disparaît, puis elle remet tout en question. Et puis elle dit, je cite, « Je me torture dans le conditionnel plutôt que de vivre le présent. » Alors,
belle définition de l'anxiété.
Oui, puis elle va expliquer les réactions qui sont à la fois physiques et psychologiques. Bon, par exemple, physiquement, elle va avoir toutes sortes de malaises. Et psychologiquement, elle dit « À quel moment les barrières érigées pour me protéger deviennent des barreaux? » Donc, tu te fais une prison. Tu ne veux pas aller à la rencontre d'un autre parce que tu as peur d'être jugé, mais en même temps, tu t'emprisonnes puis tu vas développer des peurs.
Ouais, t'es piégé.
Oui, puis là, elle va citer des chercheurs américains, par exemple, qui ont fait des tests avec des chiens, justement, qui les emprisonnent, puis qui d'autres, il y a trois types d'obstacles. Et puis ceux qui sont les plus, pénalisés, ben c'est ceux qui avaient beaucoup d'obstacles. Ensuite, elle va parler de la ville, qui est un stresseur, effectivement. Puis là, elle dit qu'à force d'être stressée, on confond les stress absolus du stress relatif. Exemple, un stresseur absolu, ça serait un tireur fou. Effectivement, tout le monde a peur de ça. Mais un stresseur relatif, c'est que demain, tu passes un examen de maths, bon, ben OK, t'as un petit stress, mais ça va passer. Donc, elle vulgarise beaucoup de phénomènes qui sont liés à l'anxiété parce qu'on sent qu'elle a beaucoup lu sur le sujet. Et puis, toutes les situations sont représentées en gros plan physique. Elle a engagé, elle le dit dans les remerciements, un mannequin qui va poser pour elle dans toutes ces situations. Et puis, un exemple que j'ai trouvé amusant, que je ne connaissais pas, c'est que l'anxiété peut créer des achats paniques. Exemple, en 1973, pendant la crise du pétrole, Johnny Carson, qui animait une émission qui s'appelait « The Tonight Show », a dit en ondes que là, il n'y aurait plus de papier toilette. Alors là, les Américains
se sont rués. Comme dans le temps de la pandémie.
Puis c'est ça, ça s'est répété pendant la COVID-19 et un peu partout dans le monde. Moi, je croyais que c'était ici seulement, là, mais des gens m'ont dit non, chez nous, la même chose. Alors, je ne sais pas qui a déclenché cette affaire-là, mais...
Johnny Carson?
Puis, oui, en 73, mais en 2019, je ne sais pas, pendant la COVID-19...
Il a semé des graines, oui.
Peut-être. Et puis là, ben, une autre chose qui m'a étonnée aussi, c'est qu'en 2016, les chercheurs ont demandé quelle est la plus grande peur auprès des gens. Et moi, je croyais que c'était la mort, le cancer.
La maladie.
Mais non, c'est l'inconnu, l'incertitude.
Ah oui.
Alors, quand on ne sait pas ce que ça va être, c'est vrai que c'est une peur terrible. Alors donc, lui, il y a un homme qui s'appelle Alan Watts qui dit « Si on remplaçait les peurs par de l'inconnu, par une curiosité, on va s'ouvrir un éventail de possibilités. » Puis là, il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont avec des prénoms. Là, elle a dû interviewer des gens qui parlent de leurs peurs. Je vais en citer un. « J'ai peur de la mort. J'ai peur qu'à mes 18 ans, tellement que j'en ai fait une... C'est ça, à 18 ans, j'en ai fait une crise d'anxiété parce que je me trouvais trop vieille. » Signé Élodie, 25 ans. Il y a ensuite Raymond, 75 ans. « J'ai peur de me retrouver seule dans un pays étranger dont je ne connais pas la langue, sans argent. » Bon, il y a plusieurs témoignages comme ça qui dit que finalement les gens sont habités par des peurs, ça se peut, c'est tout à fait vrai, et que tout ça, ben il faut apprendre à vivre avec ou à passer outre, et c'est pas simple, on le dit comme ça, mais bon. Alors elle explique que dans toutes ces peurs-là, elle s'est exclue des relations pour pas être jugée par les autres, puis que tous les réseaux sociaux montrent des gens qui vivent des affaires extraordinaires, puis a l'impression que sa vie, elle est bien plate, et là vient le temps des rencontres amoureuses qui la déstabilisent complètement. Puis là, c'est très bien illustré. On voit un personnage à qui elle parle, puis par-dessus le personnage, il y a plein de bulles qui sont ses réflexions à elle pendant qu'elle est avec lui. Exemple, la musique est trop forte, j'entends pas ce qu'il dit. J'ai l'impression d'avoir quelque chose entre les dents, je vais aller aux toilettes vérifier. Oh, il parle beaucoup de son ex. Je radote dessus, mon verre est vide, faudrait que j'essaie de capter son attention. Bref, il y a plein d'interrogations.
Il y a beaucoup de trafic.
Pas du tout le moment avec ce gars-là. Elle est toujours dans ça. Puis la partie qui, je pense, touche le plus de gens, là, c'est celle du travail, parce qu'aujourd'hui, on carbure à la performance, à la productivité, ça mène au surmenage, et puis là, on a une anxiété, parce que là, on dort pas bien, on est irritable, mais on le dit pas, parce qu'on va avoir de l'air d'être faible, pas bon, qu'on produit pas, et puis que le dire, ça serait comme être avouer qu'on a un échec, et puis là, l'échec, ça se transforme en honte. Puis là, elle dit, la honte se nourrit de secrets, de silence, de jugement. Heureusement, elle a une faille. Lorsqu'une confidence est accueillie avec bienveillance et compréhension, la honte perd de sa force. Alors ça, pour moi, c'est très important, se confier, parler à d'autres, ne pas rester dans sa douleur. Et puis, son loup, justement, c'est ça qui la traque tout le temps. Elle doit le vaincre. Et puis, dans le texte partout, il est question de ce rapport de force avec ça, comme quoi que c'est une lutte. Et puis, au fond, elle se rend compte, en parlant à d'autres, qu'on est tous dans le même bateau.
Est-ce que c'est anxiogène de lire ce livre-là?
Non, je crois qu'au contraire, ça fait du bien parce que tous les témoignages de gens de toutes sortes d'âges qu'elle cite ici témoignent du même mal de vivre. Et les études qu'elle a lues nous montrent que, bon, ben oui, on peut s'en sortir. Et puis, bon, ben... Je dirais que c'est pas un sujet qui nous fait sourire, mais qui fait qu'on se reconnaît, parce que même si on souffre pas beaucoup d'anxiété, on connaît quelqu'un ou on a vécu un épisode comme ça. Moi, je dis que ce livre-là devrait être obligatoire dans tous les secondaires de toutes les écoles du Québec, parce que c'est là qu'on décèle vraiment le début de cette panique, de cette anxiété qui habite les jeunes et qui les accompagne trop longtemps.
Et qui gangrène leur quotidien,
oui,
et leur vie.
Exact. puis leurs études et leur ouais. vie personnelle. Alors, un très, très beau livre que moi, je vais suggérer à plein de gens de Catherine Gauthier, que je ne connaissais pas, mais c'est son troisième roman graphique. Elle en a fait d'autres.
C'est elle qui l'a écrit et qui l'a illustré, dessiné.
Oui.
Valse anxieuse, Catherine Gauthier, c'est publié aux éditions XYZ. Merci pour ces deux excellentes propositions, Anne-Marie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.